Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, aujourd'hui, je reçois Carlos Medeiros, c'est une grande fierté. Merci d'être venu jusqu'ici, Carlos, et merci d'être venu parler au micro de Radio Cité Genève. On va découvrir un peu plus qui vous êtes.
Bonjour Viviane, merci pour l'invitation. Et ça serait un vrai plaisir bavarder avec vous.
Alors, on va vous demander, bien sûr, c'est une tradition dans l'émission, comment tout ça a commencé. Quel petit garçon étiez-vous ?
Eh ben, selon mon entourage, j'étais un petit garçon assez turbulent. Mais je pense que le caractère d'adulte n'a pas changé vraiment par rapport à quand j'étais petit enfant.
Toujours turbulent.
Je suis toujours dans la classe des turbulents, on va dire. Mais assez contrasté parce que j'étais quand même quelqu'un qui avait un grand cœur. Enfin, c'est toutes les choses que mes tantes, mes oncles, etc., ma mère et ma raconte.
J'étais un gentil petit garçon.
Un gentil petit garçon, mais qu'il ne fallait pas me chercher trop, on va dire.
D'accord.
Comme ça.
Alors, vous travailliez bien à l'école ?
Je travaillais bien à l'école. J'étais ouais. un excellent élève, même.
Ah, c'est bien ça.
Mon bac à 16 ans.
Ouais. Donc, vous êtes né où ?
Je suis né à Lisbonne.
Oui.
Donc, dans une famille classe moyenne, un petit peu, on va dire, moyenne. Rien ne manquait à la maison, mais on ne pouvait pas faire des excès ni des folies non plus.
D'accord.
Avec des parents aimants, mais très stricts.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents ?
Alors, mon père, il a travaillé à la mairie de Lisbonne pendant un moment, dans la voirie même de Lisbonne. Et après, il a ouvert un petit garage.
D'accord.
Où il a souffert un accident qui a un petit peu changé après les rapports de famille, on va dire.
Mm-hmm.
Parce qu'il a été obligé de marcher avec des béquilles, etc. Donc, j'ai une image de mon père différente avant et après. Avant, c'était quelqu'un de très actif. On allait voir des matchs de foot, les dimanches, etc. Et après, c'était déjà un petit peu plus pénible parce qu'il avait de la peine à marcher, etc. Et ma maman, elle a travaillé un petit peu tout. Entre autres, elle faisait des ménages à un moment donné. Mais elle a travaillé aussi dans un journal, vous savez. À l'époque, il y avait des lettres en plomb.
Absolument.
Donc, elle faisait ça, elle faisait des maquettes, etc. pour travailler avec les journalistes. Donc ça, je me rappelle qu'on avait les doigts complètement aussi pleins d'encre. Vous voyez, c'est toutes des images petits garçons. Je parle vraiment petits garçons.
Vous avez des frères et sœurs, Carlos ?
J'ai un frère qui a 7 ans de plus que moi, qui a 56 ans.
Et qui est aussi en Suisse ou qui est resté au Portugal ?
Non, j'ai aucune famille en Suisse.
Aucune
Tout le monde est resté là-bas. Donc, parce qu'il faut dire que je suis né à Lisbonne, donc centre-ville de Lisbonne, c'est pas forcément de là que l'immigration est part. Et moi, dans mon quartier, par exemple, je me rappelle d'aucune personne qui était immigrant tant qu'elle partait à l'étranger. C'est vraiment un quartier traditionnel, un petit peu, le paquis d'ici, mais dans une forme un petit peu plus caricaturale.
Alors, avant d'arriver à l'immigration, on va parler des études que vous avez faites. Vous avez fait des études supérieures ou pas du tout ?
Pas du tout. J'étais le seul dans la famille à ne pas le faire non plus. Vous voyez, toujours ce caractère un petit peu...
Indépendant.
Indépendant. Puis l'âge de 16 ans, quand j'avais fini mon bac, j'avais dit à ma famille que je voulais être surfeur professionnel.
Ah oui, ça c'est spécial ça.
C'était parce que j'adorais ça, je faisais du surf, etc.
Donc, en Australie, j'ai lu ça quelque part.
C'était mon but.
C'était le but.
C'était le but, aller en Australie, aux États-Unis, c'est les deux mecs du surf, on va dire. Et d'ailleurs, c'est une des raisons que je vis en Suisse. C'est intéressant pour savoir. Parce que
ouais, mais là, il n'y a pas beaucoup de vagues en Suisse sur
non,
le lac.
Non, mais l'idée, c'était de venir ici pendant quelques mois, justement, faire de l'argent pour aller plus loin.
D'accord. Donc, ce n'était pas de rester initialement.
Non, 28 ans après, je suis toujours là.
Oui,
je cherche toujours la vague magique.
Bon, enfin, elle n'est pas sur le lac, hein, parce qu'elle n'est pas assez haute pour faire
si,
du surf.
Mais si, aux États-Unis, il y a des lacs, notamment les lacs à côté de Chicago, où il y avait des vagues en hiver. Donc, il y a des vagues d'un mètre et demi, deux mètres.
C'est déjà assez... Pas sur l'aimant, quand même.
Mais c'est un lac aussi.
Oui.
Et vous savez qu'ici, j'ai navigué avec des amis qui ont des bateaux, des voiliers, et vous serez très étonnés de savoir qu'au milieu du lac, par exemple, quand il y a le Jouron, quand il y a certains vents, ben vous aurez, ça creuse, il y a des vagues assez impressionnantes.
Oui, oui, ouais. Puis c'est très gris, et puis ça fait un peu peur, oui.
Dans les grands lacs.
Oui, ça fait très peur aux Méditerranéens.
Oui, je n'en ai pas habité.
Non. Alors, tout ça pour nous dire qu'un jour, vous avez eu l'envie de partir, on a bien compris, alors que ce n'était pas partir pour émigrer en Suisse, c'était partir pour aller faire de l'argent.
Voilà.
Donc, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé ici ?
Alors, quand je suis arrivé ici, donc une histoire, parce que je connaissais une copine, enfin un petit amour de 18, quand j'avais 18 ans, donc j'avais 21. Et on s'est recroisé au Portugal, donc en Noël 86, elle était en vacances là-bas, et elle m'a dit que comme faisait un stage dans un grand hôtel, un 5 étoiles, par rapport à des accords qu'il y avait des écoles d'hôtellerie au Portugal, par rapport, voilà, pour envoyer les gens après stagiaires en Angleterre, en Suisse, etc., dans des grands pays de réputation avec des grands hôtels. Et elle me disait justement qu'elle était ici à faire un stage. Alors moi je dis, ah bon, Suisse, vous savez, c'est quand même la Suisse. Pour la petite anecdote, la première fois que j'écoutais parler de la Suisse, donc à niveau de pays, c'était dans les études sociaux, c'était dans l'époque, enfin c'était les prémices de l'écologie. Il y avait une photo que j'oublierai jamais, donc il y avait à côté d'une autoroute, il y avait un panneau qui disait « attention aux grenouilles, venez ».
Attention aux grenouilles.
Voilà. Alors, pour un pays comme les miens, où justement la bataille du jour à jour, c'était déjà commencé à voir des fois, la plupart des fois,
manger.
Mmh. Ouais, les donc, grenouilles, on est un pays qu'on soucie de ces grenouilles. C'est forcément
c'était un pays où il y avait un certain, un certain
aisance,
confort.
Hein,
un
degré certain de civilisation confort. Assez avancé.
On écoute un peu de musique, Carlos.
Ouais, absolument.
Avec plaisir.
Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sand and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Carlos Medeiros, notre nouveau président du conseil municipal de la ville de Genève. Et là, nous venons d'apprendre quelque chose de très drôle, c'est que Carlos, en arrivant ici, était un peu surpris de voir des panneaux pour la protection des grenouilles en bord des autoroutes ou des routes. Effectivement, on a plutôt l'habitude de les manger, ces grenouilles.
Dans l'époque, absolument pas. Alors,
non.
C'était pas dans mes traditions culinaires,
non.
Manger des grenouilles.
Au Portugal, on mangeait pas de grenouilles.
Non, on mange beaucoup de choses, mais pas ça.
Ça, c'est du sud-ouest de la France.
Absolument. Et que j'aime bien, d'ailleurs, aujourd'hui.
Donc, les grenouilles, et puis vous vous dites, c'est un pays quand même très cossu, très à l'aise, puisque les grenouilles sont protégées. Et vous arrivez ici, vous faites quoi?
Alors, je fais de porte à porte. Je fais de porte à porte. Bon, vous avez dans l'époque la possibilité de rester 3 mois en tant que touriste. Donc, c'était mon statut, mon premier statut. Je fais de porte à porte et j'ai eu la chance de trouver très vite, parce que c'était la bonne époque, hein, de trouver très vite donc, un job, un travail dans un grand hôtel, encore une fois de 5 étoiles aussi. Comme groom, vous savez, un petit
à
peu.
À l'entrée.
Voilà, comme il est habillé à Spirou presque. Qui a comme, à l'époque, c'était en bleu. Là.
C'était bleu.
C'était plutôt schtroumpf.
D'accord.
On accompagnait bon, les clients à la chambre, on expliquait la chambre, etc.
D'accord.
Donc ça, c'est mon premier travail.
Vous n'êtes pas resté groom très longtemps, je crois.
Non, je pense. Non, je passais à être concierge très vite. Parce que
ça, c'était déjà plus intéressant.
J'étais des gens débrouillards, on va dire.
Tout à
j'étais
fait.
J'étais le postman aussi. Donc je faisais tous les courriers de l'hôtel. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même rien que les employés, c'était 600.
Ah oui.
Et voilà.
Et puis là, vous montez en grade.
Et là, je monte en grade. Enfin, là, j'ai un accident quand même de vélomoteur.
Mm-hmm.
Quelqu'un qui me tape par derrière. J'explose quand même le genou gauche qui va me faire voilà, la deuxième partie de saisonnier parce que c'est 4 ans de saisonnier, donc permis 1. 2 ans avec des béquilles.
Oui, oui, oui.
Quand même assez important. Donc,
ça,
7 fois
lourd, oui.
les tendons croisés, le ménisque, etc. Et après cette période, bah, quand j'ai touché mon permis B, mon idée, la seule idée que j'avais, c'était monter des affaires. Parce que j'ai vu qu'il y avait ici un bon terreau pour ça.
Des opportunités sérieuses.
Ah, absolument.
Des opportunités sérieuses. Vous êtes arrivé à être clé d'or dans votre hôtel ou...
Non, je n'ai pas réussi. Enfin,
parce que c'est un beau métier,
ouais,
ça. C'est...
Mais moi, j'adore ça.
Ah,
j'adorais
ouais,
ça.
C'est beau.
Parce qu'il y avait... Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Aujourd'hui, avec Internet, je pense qu'il y a... C'est beaucoup plus simple, on va dire.
Oui, tout est...
Mais j'ai travaillé avec des grands professionnels, l'hôtellerie suisse, on va dire, des gens qui avaient déjà 30 ans de métier et qui, avec ces petits calepins, vous savez, noirs, avec des noms dans le monde entier, de New York à Londres...
Ah, mais je trouve que c'est un très beau métier.
Vous pouvez trouver... Ils pouvaient trouver n'importe quoi, n'importe quelle heure. C'était quand même assez impressionnant.
Et humainement, ce sont des gens qui sont à l'écoute aussi. C'est pour ça que c'est beau aussi.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous avez monté comme affaire?
Alors, j'ai commencé pour un petit snack, dans les quartiers de Paqui, et après des restaurants.
Et d'accord, après, alors qu'est-ce qu'on servait dans les restaurants? J'ai compris qu'on ne servait pas de grenouilles.
Non, alors le premier snack que j'ai fait, c'était, je ne sais pas, ça m'est venu à la tête, je ne sais même pas comment, c'était faire une friterie belge, vous voyez.
Ah oui, ça c'est spécial.
Alors on est allé, moi et mon associé, donc que j'ai connu dans l'hôtel, en Suisse, on est allé carrément à Bruxelles, on a fait un peu un verre, etc., pour aller filmer, on avait des grandes caméras encore à l'époque, pour aller filmer les secrets des frites belges.
Alors elles sont beaucoup plus grosses.
Déjà.
Et l'huile ne resserre pas autant. Hein,
ouais, et les sauces, le secret c'est les sauces quand même.
C'est très bon, hein, les frites
plus
belges.
Plus de 20 sortes de sauces différentes, ce qu'on avait.
Ouais.
On a même créé un emballage qui imitait un petit peu le cornet en papier, sauf que nous, on l'avait fait en carton, aussi en triangle. On avait fait tous les concepts.
Voilà. Et donc ça s'appelait comment, alors?
Et ça s'appelait Croc.
Croc. Ouais, c'est sympa,
ça. Parce que Ray Croc, c'est le fondateur d'une grande chaîne au logo jaune et rouge. Et moi, ça m'a toujours fasciné que ce monsieur avait créé un empire dans le fast-food. Il était dans l'époque, bien sûr, j'étais très modeste, c'était tout de suite faire une chaîne.
Mais tout de suite de grimper en haut de l'échelle. Hein.
Vous savez, j'ai toujours des ambitions assez larges.
Il faut. Oui. Donc, l'intégration est super réussie.
L'intégration, comme j'ai l'habitude de dire, il faut 2 parties pour une bonne intégration. C'est déjà les structures que les pays donnent. Et c'est vrai que la Suisse, à l'époque et encore aujourd'hui, donnait ces structures-là. Il faut après l'envie de s'intégrer. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Si la personne n'a pas envie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De donner des cours de français, de ceci, de cela, ben la personne ne serait
jamais intégrée.
Ça ne marche pas. Donc, j'ai l'habitude aussi de dire que je me vois mal enfumer mon immeuble à 23 heures de soir parce que j'ai envie de faire des sardines.
ça serait une très mauvaise idée
donc,
en Suisse.
Non, c'est une question que j'appelle le respect des us et coutumes. C'est très important, ça ne suffit pas de respecter la loi. Il faut après s'intégrer dans un milieu un petit peu culturel.
Il faut les codes au fond.
Des codes, exactement. Il faut des codes et pas faire des ampères parce que ça peut coûter très cher après.
Est-ce que vous vous êtes marié ici?
Je suis donc marié 2 fois, je suis en train de divorcer pour la 2e fois. Donc
ça arrive, bon, à des gens très bien.
pas plus que la moyenne genevoise, on va dire, un sur deux.
Voilà.
J'ai une fille donc, de 18 ans de premier mariage et j'ai un garçon de 5 de deuxième.
C'est bien.
Un petit garçon.
Les enfants, c'est la joie de la vie, Carlos.
Ça, c'est
pas
sûr.
On écoute un peu de musique tous les deux ? On y va.
Volontiers, merci.
Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Cœur et faut du courage, mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas.
Cité Genève. Viviane DeVitt.
La bouteille à moitié pleine.
Avec Carlos Medeiros, le président du conseil municipal de la ville de Genève, dont nous avons vu qu'il avait réussi une intégration record en un temps record, parce qu'en fait, il avait envie de s'impliquer et aussi parce que les structures de Genève le permettaient et le permettent d'ailleurs toujours, vous avez dit tout à l'heure, Carlos.
Absolument.
C'est important ça, parce que c'est l'ascenseur social en fait. Hein.
L'ascenseur social, à condition encore une fois qu'il y a l'envie de la personne, il y a l'ambition, mais il y a aussi que cette personne se donne les moyens de cette ambition. Pas rester dans son canapé en train de maudire la vie, qu'elle est injuste.
Pleurnicher, etc. Alors, vous avez été, je crois, toujours dans le schéma de vous intéresser, puisque je crois que quand vous étiez élève déjà, enfant, vous étiez déjà impliqué dans une association de lycéens, je me suis laissé
Absolument.
Dire. Et puis là, vous êtes rentré en politique tout à coup. Alors, pourquoi et comment ?
Alors, bon, au Portugal, comme je vous ai déjà dit dans certains médias, donc j'ai commencé très tôt, 10 ans, je collais déjà des affiches, etc. Nous étions dans des périodes révolutionnaires en cours, ce qu'on appelait le PREC, après les révolutions des œillets, donc en pleine guerre.
Qui avait fait, on va rappeler pour les gens qui nous écoutent, donc c'était le président Salazar qui avait été déposé
Même
par...
Même pas, le pauvre Même était pas. Déjà mort.
A donc été mort déjà.
C'était ses successeurs.
Ah d'accord, c'était ses successeurs et voilà. C'était une révolution tout court contre la bourgeoisie possédante de l'époque.
Oui, non, vous savez, c'est plus complexe que ça. En fait, c'était une lutte des classes, tout bêtement.
Oui,
il y
ça.
Avait un groupe des capitaines de l'armée. Miliciens, donc des gens qui avaient fait l'UNI, mais qui n'avaient pas fait l'école militaire, et qui touchaient un tiers des salaires de moins, tout bêtement, à l'origine de mouvement, c'est ça. Après, bien sûr...
C'est souvent peu de choses.
Hein. Oui, des fois, c'est comme ça. Donc, après, c'est vrai que le régime, il était déjà mûr pour tomber, on va dire. Tant mieux, parce qu'il y avait...
Donc, vous intéressez déjà à la politique,
oui.
Là-bas, au Portugal.
Donc, j'étais dans un schéma à droite, à l'époque, hein, par rapport à l'échiquier politique. Et je suis toujours centre-droite, parce que j'estime quand même qu'il y a...
Il n'y a pas de honte à dire qu'on est de droite.
Ah
hein.
Non, mais moi, je n'ai jamais eu... Centre-droite, j'ai quand même des fondamentaux à niveau social, très importants, parce que je pense que...
On va en parler tout à l'heure.
Si on laisse tomber les petits gens, comme on dit, hein, et je dis ça sans aucune arrogance, on finit toujours pour payer les prix, soit à niveau des impôts, soit à un autre niveau. Donc, j'ai dit ça à mes copains de la droite, des fois, la droite plus et dure. Qu'il faut faire attention à ce genre de choses parce que ça finit toujours, excusez-moi
ça finit toujours mal.
Nous tomber dans la gueule.
absolument, et c'est normal. Donc, revenons à votre engagement politique. Comment ça a commencé en Suisse ?
Alors, en Suisse, je suis ami avec Olivier Sauty, donc un ancien député de mon parti, de l'OMCG, qui, à l'époque, était en République dominicaine, qui m'avait présenté M. Eric Stoffer quelques années avant. Et je l'ai appelé en disant, bah écoute, il y a ton copain, tu vas pas me croire, je l'ai vu dans le journal, il monte un parti politique. Alors lui, il est de retour, tout à fait par hasard, 6 ou 7 mois après, il m'appelle, il me dit, bah écoute, tu sais, toi tu aimes toujours la politique, il faut rentrer là-dedans, parce que bon, c'est un groupe de joyeux dorons, on va dire, on aime bien, on va faire des choses différemment, etc. Et c'est comme ça que je me suis trouvé tout de suite à l'origine donc, de l'OMCG en 2005. Il était fondé en 6 juin 2005 et moi, j'étais déjà rentré à la fin du mois.
D'accord, vous êtes un des fondateurs en quelque sorte.
Un des fondateurs,
sorte, voilà.
Ouais.
Et là, alors, votre première idée, qu'est-ce que c'est en politique ?
Ma première idée, c'est que le concept de gauche et droite est dépassé.
Ça, c'est clair.
Donc, je me suis dit, on était en plein transformation, tout ça. Je me suis dit, bon, il y avait déjà eu la chute du mur. Hein. Alors, je me suis dit que cette schéma de tout ce qui vient d'un bord est mauvais, il doit être forcément bon et vice-versa. Ça ne me plaisait pas et je pense que cette idée de MCG qui existe toujours, c'est ça. C'est une économie forte pour faire du social efficace. Ça veut dire que nous sommes très libérales par rapport à l'économie, la sécurité, etc. Mais nous savons aussi qu'il y a des gens que malheureusement, pour des accidents divers de la vie, ils se trouvent des fois dans des situations très pénibles et qu'il faut les aider. Donc, au contraire de la gauche, qui est dans une logique arrosoir, qu'il faut, voilà, on donne d'abord de l'argent et après on essaie de comprendre comment les sortir de là. Nous sommes dans une autre logique. Nous devons gagner de l'argent. Nous devons gagner de l'argent pour pouvoir payer des impôts et que ces impôts soient après.
Carlos, en quelque sorte, c'est la politique du faire grossir le gâteau pour pouvoir le partager.
Absolument. Il n'y a pas un autre choix, de toute façon. C'est le système qui marche à notre avis.
Je le pense aussi. Donc, vous rentrez en politique. Et au début, est-ce que vous avez beaucoup de difficultés ? Alors, à part le côté sympa d'être avec des copains qui pensent la même chose que vous, mais quand même, il faut convaincre les gens. Alors là, ça se passe comment?
Convaincre les gens, mes origines, ma prononciation qui existe toujours. D'ailleurs, aujourd'hui, je dis ça en boutade, comme quoi je viens des Grisons. Hein. C'est vrai qu'il y a tout ce côté, entre guillemets, l'étranger, parce qu'il y a toujours ce que j'appelle un racisme primaire, qui est logique, humain. C'est quand vous voyez la petite mémé, je donne l'exemple des fois, il est dans son coin pour voter, quand il voit un nom bizarre, etc. Il y a toujours cette tendance... Qui c'est ce monsieur, etc.
Mais Medeiros, c'est pas un nom très bizarre,
mais
quand même.
À l'époque, si, aujourd'hui, vous voyez, c'est rentré dans les mœurs. Mais au tout début, c'était loin d'être facile, d'être évident. On était trop typé, Carlos. Et en plus, j'utilise le nom de famille de ma mère, parce que c'est obligé. Donc, Carlos Sarajeva Medeiros, ça fait déjà très exotique, vous voyez, par rapport aux Suisses.
Oui,
donc,
c'est vrai.
Il fallait se battre par rapport à ça, que les gens ils acceptent l'idée de la différence. Et surtout, faire comprendre que peut-être je ne suis pas plus suisse que les Suisses, mais qu'en tout cas, je défendrai les valeurs pour lesquelles j'ai toujours aimé ce pays.
Donc, ces valeurs, dites-nous un peu ces valeurs, parce que ça, c'est important.
Le travail bien fait. Vous savez, je viens d'un pays latin, donc, comme tous les pays latins, nous sommes toujours dans la à peu près. C'est pas forcément que. On est toujours à 90%. On fait jamais les choses à 100%. Donc, si on est à 90%, on estime déjà qu'on a fait pas mal d'efforts et que tant pis pour le reste, ça allait comme ça. Alors, cette idée-là, c'est un peu la caricature. Mais quand je suis arrivé ici, les premières choses que je me suis aperçu, peut-être par rapport aussi aux fondamentaux de mon éducation, que c'était assez strict, c'est cette idée-là de vouloir faire le travail bien fait. Mais vraiment, quand on dit bien fait, c'est 100%. Pour s'approcher de l'excellence. Et c'est aujourd'hui ce que je demande à mes enfants, par exemple, surtout à la plus âgée, c'est l'excellence. On vise l'excellence pour avoir le très bon, mais on ne vise pas le bon pour avoir le plus ou moins bon. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça ne remonte pas dans l'autre sens. Hein?
Non, je vise l'excellence et cette excellence suisse que nous trouvons aujourd'hui en plusieurs métiers, d'ailleurs, des métiers à valeur ajoutée.
Absolument.
Et qui fait la richesse parce que
ce que j'ai dit. On peut en être fier.
À mes amis d'origine étrangère, vous savez, cette histoire de l'argent sale, et c'est grâce à ça que nous sommes tous bien. Il faut arrêter. Hein. Quand vous allez voir les PIB de pays, vous allez vous rendre très compte que ça compte pour une goutte d'eau, on va dire, dans l'océan. Non. C'est justement toutes ces industries, de l'horlogerie jusqu'à la mécanique de précision, etc. qui crée un valeur ajoutée.
Les pharma aussi, bien sûr.
Même l'agroalimentaire, etc.
Bien sûr. Et toute la recherche, avec, le PFL.
Absolument. Avec ces valeurs ajoutées. Ces valeurs ajoutées qui fait que des machines, je ne sais pas, des imprimantes, le meilleur au monde sont allemandes en Suisse, etc., etc. Mais ce sont des machines à 1,5 million, 2,5 millions. Pendant que, voilà, c'est ces valeurs ajoutées qui m'a plu. C'est cette recherche toujours de bien faire et de l'excellence qui m'a plu. Et bien sûr, tous les codes d'éducation, on n'appelle pas après 22 heures. Vous savez, je me suis habitué très vite à tout ça, c'est marrant. En étant quand même à latin d'origine, chez nous, bon, on sonne à la porte à 23 heures, salut, comment ça va? Vous savez,
Bon, ça, c'est chaleureux, hein, moi qui suis une méditerranéenne.
Oui, mais moi, j'aime pas ça, vous voyez, je me suis très... Non,
je promis, je ne viendrai pas sonner à votre porte à 23 heures, Carlos.
Je me suis habitué à toutes ces codes qui m'ont plu, en quelque sorte.
Oui, on va écouter un peu de musique, d'accord?
Merci.
Let's hit the road and away we go. Take a new direction to a different coast. Maybe we should try and put it on the line. You gotta trust me now, turn up the radio. Tune out the world and roll with the melody. Baby, listen close and open up your mind. Imagine it. I'll take you there. Knew one day from the start we'd be as one. Now here we are. All we gotta do is listen. All we gotta do is listen. All we gotta do is listen. All we gotta do is we'll be right back.
soundtrack in the wind, like passing violins. I can be your rhythm in the silence, and every time we sing, it echoes in the sky. Let me close your eyes, help you fantasize, make a kiss our playlist the entire night. Listen to the words as I let them fly.
Sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Carlos Medeiros, le président du conseil municipal de la ville de Genève. Nous venons de voir une intégration réussie et surtout un amour du travail bien fait, une recherche de l'excellence qui au fond vous a mis très tôt, Carlos, en adéquation avec des valeurs qui ont cours ici en Suisse et dont nous pouvons être fiers.
Absolument.
Alors vos premiers pas dans cette politique, tout en ayant quand même vos affaires, parce que vous étiez sur deux pieds là.
Toujours. D'ailleurs, donc entre 2005, la fondation de MCG, et 2008, où je rentre vraiment en politique active, j'avais tellement d'affaires, c'était impossible. J'avais des restaurants, etc. Donc,
alors, les restaurants, vous en aviez plusieurs ?
Oui, j'avais même trois à un moment donné.
C'était... Ah là, c'était plus que les frites.
Hein. Non. C'était un beau métier. J'adore ce métier. Ce métier de la
table. C'est convivial, c'est chaud,
j'adore,
c'est chaleureux.
Ça. Mais c'est aussi très prenant. Et, et vous vous mariez avec vos restaurants, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas partir. Vous pouvez avoir même de l'argent, malheureusement, comme c'est arrivé à un moment dans ma vie. Mais vous ne pouvez pas partir. Vous êtes bloqué là-dessus. Et après, bah, d'autres choses. Bah, j'ai fait l'import-export. J'ai emporté même des premières, par exemple, graveurs de CD. Je m'en allais de la Corée du Sud. Je faisais dans la vanilline. C'est la vanille de synthèse que j'ai acheté en Chine à l'époque. Enfin, j'étais toujours assez.
Très entrepreneur dans
hardi,
l'âme.
On va dire, dans les affaires. Je suis un créateur, en fait.
Vous êtes un créateur d'entreprise.
Pas forcément un bon gestionnaire, parce que tout ce qui est paperasse, c'est pas ma tasse de thé. Par contre, je suis un créateur. C'est
donc
vrai que j'adore créer.
Vous aimez
j'adore
lancer des entreprises.
Ah ouais, je peux
alors,
lancer
est-ce que vous avez un associé ou des associés qui, eux, sont des administratifs?
Non, malheureusement ou bien heureusement, je suis associé à M. Eric Stoffer, donc qu'on se connaît déjà avant la politique.
Et lui, c'est un bon administratif?
Non, c'est un ancien créatif.
Ça m'étonnerait.
Créatif. Nous sommes les deux créatifs, mais bon...
Vous faut absolument un administratif.
Nous sommes entourés des gens de valeur,
des
qualités, qui justement sont là pour mener le bateau tous les jours.
D'accord.
Et nous, même ce qu'on surveille, nos affaires, bien sûr, nous sommes toujours dans un process créatif. Nous avons 10 idées à la minute, mais des fois ça marche bien, des fois pas. Mais c'est ce côté créatif d'entreprise, d'entreprendre en fait.
Alors Carlos, une journée type de Carlos Medeiros avant d'être président du conseil municipal?
Alors, réveil 6h30 en tout cas, jamais plus tard. Je dors très peu, je dors 4h.
C'est un des secrets pour les entrepreneurs.
Non, mais 4-5 heures par jour, ça c'est clair. Je me couche très
nuit,
tard,
peut-être.
Je me lève très tôt.
Par nuit plutôt.
Par nuit, pardon. Donc, après, je prends le petit déjeuner avec mon enfant, le petit, parce que c'est une des seules possibilités que j'ai de le voir la plupart des fois. Je le ramène à son école. Donc, ce qui nous fait déjà 7h30, 8h. Après, retour au bureau. J'ai la chance d'habiter dans le même immeuble.
Ah, ça, c'est malin.
Et ça, c'est... J'ai fait exprès. Ça veut dire que j'habite au troisième, j'ai mes bureaux au premier, ce qui permet déjà un gain de temps exceptionnel.
Un monumental à Genève.
Donc, un petit tour avec mes collaborateurs, voir ce qui se passe le jour avant, parce que nous avons plusieurs bureaux en Suisse. Notre business core est dans les téléphonies. Donc, nous vendons des cartes SIM pour des segments spécifiques.
D'accord.
Donc, j'ai tous les rapports, parce que j'ai des bureaux à Bâle, à Lugano, à Lausanne, à Fribourg, etc. Et nous ouvrons Berne maintenant.
Un entrepreneur heureux, ça c'est quand même formidable.
Écoutez, heureux, il faut se battre tous les jours.
Oui,
Viviane,
mais...
vous connaissez ça.
Oui, tout à fait.
On ne peut pas s'endormir.
Non.
Ça mais... c'est clair, il faut innover et nous sommes toujours dans l'innovation. Toujours en train de créer des nouveaux produits, toujours à l'écoute des clients, très important. Parce que les clients, c'est ce que je dis à mes collaborateurs, ce n'est pas moi qui vous paye vos salaires, c'est nous clients qui vous paye vos salaires.
Tout à fait.
Client heureux, client qui va continuer, client fidèle. Et qui va vous permettre justement de que je vous paye votre salaire. Donc ça, on vient de dépasser les 100 000 clients quand même.
Ah oui,
en
quand
4,
même.
4 ans et demi, c'est quand même.
Donc il n'y a plus de restaurants maintenant.
Non.
Il y a juste les cartes téléphonie.
Et là, nous sommes dans plusieurs autres affaires. Nous sommes dans la construction, dans la rénovation d'appartements. Nous sommes dans la matière première. Aujourd'hui, le business core, donc, il commence à représenter déjà moins de 50% de nos activités.
En tout, vous employez combien de personnes ?
Ça dépend avec les vendeurs, parce que vous savez, nous avons plusieurs réseaux de vente, mais disons que ça tourne autour de 300 personnes.
Oui, c'est déjà une très grosse
PME.
C'est limite PME. En tout cas, pour la Suisse, c'est très important.
C'est déjà pas mal.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est très réussi. Mmh. Et alors, la politique, c'est très réussi aussi.
Bah écoutez, j'ai fait mon bout de chemin, comme on dit. Hein.
Ben oui.
Ce qui est intéressant, c'est que j'avais dit à Eric Stoffer il y a quelques années que c'était un... Dans la possibilité, même si j'ai jamais été carriériste, je suis pas là pour faire carrière, hein, mais je me suis dit dans l'époque, tu fais des pieds par terre, donc conseiller d'État, ça m'étonnerait, maire avec tous ces jeux politiques d'alliance et tout, ça va être très compliqué, mais un poste qui m'intéresserait et qui essaie à m'apporter, ça serait la présidence du conseil municipal. Et quand je dis ça, la MCG n'était même pas, il n'y avait même pas des élus en ville de Genève, donc c'était assez prémonitoire. Hein. Il me dit, ouais, bon, mais tout quoi, c'est tout à fait possible. Et voilà, je suis heureux que vous tracez quand même une idée, ou que vous avez une idée dans votre tête, et bien vous arrivez quand même à la réaliser. Moi, je pense quand on fait ça, c'est quand même quelque chose.
Vous connaissez l'adage, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
Ah, ça, je ne le connaissais pas, mais il est très beau. Je vais le garder.
Allez, on écoute un peu de musique avant de repartir vers la suite des aventures.
Les gens ont tombé, on n'avait pas pris l'enfance. Que les gens ont grandissé, on n'avait pas pris le rire. Que les gens ont pleuré, on n'avait pas pris à croire. Que les gens ont douté. On n'avait pas appris à aimer. On n'avait pas appris à parler. Que les gens ont juré. On n'avait pas appris l'aisance. Qu'il fallait tout quitter. On manque d'humour dans la famille. On manque d'humour dans la famille. Pour une chance, c'est une chance de vivre de ce côté. Pour une chance, c'est une chance de vivre du bon côté. Et quelle chance, pour une chance de vivre du bon côté. Quelle chance, quelle chance, quelle chance. Apprendre à marcher, cela nous aurait suffi. Apprendre l'enfance, cela nous aurait suffi. Apprendre à sourire, cela nous aurait suffi. Apprendre à croire, cela nous aurait suffi. Apprendre à aimer, cela nous aurait suffi. Apprendre à parler, cela nous aurait suffi. Si tu nous avais appris, cela nous aurait suffi. Pour une chance, c'est une chance de vivre du bon côté. Pour une chance, c'est une chance de vivre de ce côté. Et quelle chance, pour une chance, de vivre de mon côté. Et quelle chance, quelle chance.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt, la bouteille à moitié pleine.
Avec Carlos Medeiros, le président du conseil municipal de la ville de Genève. Carlos, vous avez plein de projets. Alors lesquels en politique cette fois-ci?
Bon, en politique, soyons honnêtes, ça fait 10 ans bientôt que je fais de la politique active, une politique prenante, vous voyez, vous avez vu sûrement dans les journaux, etc. Je ne suis pas un presse-bouton, comme on dit. Vous savez, il y a plusieurs types de politiciens. Il y en a ceux-là qui sont là, tranquillement, ils attendent des instructions, ils vont dans les sens...
Oui, c'est pas trop votre genre, hein, ça d'attendre des instructions.
Non, donc je suis...
pas le genre de la maison.
Je suis une locomotive avec d'autres, mais il n'y a pas que moi, bien sûr. Et c'est vrai que c'est prenant, d'ailleurs, ma vie privée, c'est récent, et peut-être mon deuxième divorce, c'est pour beaucoup là-dedans. Ceci dit, pour dire quoi? Pour dire que ma carrière... Bon, je finirai mon année de présidence, je peux vous annoncer un scoop, je ne l'ai jamais dit à la presse. Même chez DC en temps, donc je pense démissionner derrière.
C'est vrai.
En tant que conseiller municipal, je pense que j'ai déjà fait le tour.
Et je Pourquoi vous avez fait le tour?
Parce que ça fait 5 ans que je suis là. Je ne suis pas un technicien, donc ça veut dire que les dossiers, etc., il y en a qui sont spécialisés dans les commissions de finances, etc. Moi, je suis un élu politicien, ça veut dire que je donne des idées, je donne des cadres, et après on essaie de les mettre en pratique. Donc pour moi, c'est une conception différente de la politique.
Et là, vous pensez que vous avez mis en place assez de gens pour suivre votre...
Absolument. Il y a une relève derrière, d'accord. Ça c'est important. Et si vous avez des gens comme moi, avec un caractère assez puissant, qui prennent beaucoup de place, soyons clairs, donc vous ne laissez pas éclore ces nouveaux valeurs qui sont là. Et moi, je pense que c'est intéressant de laisser arriver... Eh ben, je me concentrerai, parce que je suis député aussi, donc je me concentrerai sur le Parlement, parce qu'il y en a beaucoup à faire. Et malheureusement, quand vous faites tout, il y a une partie qui n'est pas bien faite.
C'est certain.
Et j'ai un niveau politique, un niveau du Parlement, il y a certains projets qui me tiennent à cœur, notamment au niveau social.
Donc, alors justement, on va en parler. Lesquels, Carlos?
Alors vous savez, nous avons un problème aujourd'hui avec l'économie domestique. On appelle ça l'économie domestique. C'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que vous avez à peu près 20 000 personnes qui n'ont pas de papier. Et que moi, je le vois, vous savez, je le côtoie. Tous les jours, je le vois dans mon immeuble, etc. Ce sont des gens importants. Alors, il faut trouver des solutions. Je ne suis pas pour une légalisation à l'outrance, parce que les Espagnols, ils ont bien vu que ça ne sert à rien. Ils ont légalisé 1,5 million, ils ont 2 millions derrière encore pour légaliser, parce qu'ils sont les cousins qui sont les appelés, la famille, etc. Donc, moi, c'est à ce niveau-là qu'il faut trouver des solutions. Ça, c'est une idée parmi d'autres. Mais comme je vous avais dit tout à l'heure, je sais d'où je viens. Je connais les valeurs. Les valeurs de l'argent. J'ai vécu ici avec une famille pour 3000 francs mensuels. Et je pense qu'à ce niveau-là, même si aujourd'hui je gagne très bien ma vie, à ce niveau-là, je pense qu'il y a des choses à faire et il y a des idées que j'aimerais développer.
Le logement, c'est aussi une de vos préoccupations.
Bien sûr. Et je suis très heureux de voir que le peuple nous suit. D'ailleurs, on vient de gagner un référendum très important. La transformation des bureaux, donc avec mon ami Zacharias. Je salue au passage parce qu'il a toujours cru, il a bien fait. Donc la possibilité de transformer des bureaux en logements et vice-versa. Parce que jusqu'à maintenant, il était tellement dans un carcan qu'il n'y avait aucun propriétaire qui avait envie de le faire parce qu'on ne pouvait pas venir en arrière. Donc forcément, ce n'était pas une bonne chose. Il y a d'autres idées. Vous savez, il y a plein d'idées dans ce sens-là pour s'attaquer à LDTR, donc la loi des démolitions et transformations, qui était tellement, peut-être dans une époque, c'était quelque chose de très bien pour éviter les abus, mais qu'aujourd'hui, eh ben, coince complètement la construction de nouveaux logements.
Donc en fait, libérer le logement.
Ouais, complètement.
Ensuite, l'emploi. Donc,
L'emploi, bon, vous nous connaissez, notre priorité, même encore une fois, on le dit souvent, notamment dans l'horlogerie, dans la santé, dans la restauration, vous allez trouver les ressources là où elles se trouvent. Nous savons très bien que nous ne pouvons pas, malheureusement, remplacer un emploi actif pour un chômeur, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est vrai que la priorité aux résidents, pour nous, c'est très important, parce que ça nous coûte cher. Ça nous coûte énormément cher à niveau social. Je donne quand même des chiffres. L'hospice général nous coûte 80 millions. À niveau de l'assurance, la subvention des assurances maladie nous coûte dans les 300 millions par année. Donc tout ça, ça crée des dysfonctionnements à niveau de notre société très importants.
C'est vrai, mais alors il faudrait faire de la formation, Carlos, parce qu'on n'a pas toujours, nous les entrepreneurs, les gens formés qu'il nous faut. Et nos entreprises, si elles doivent recruter, il faut bien recruter des gens qui sont formés. Vous ne pouvez pas non plus, dans des PME, des petites PME, vous ne pouvez pas avoir des gens non formés, parce qu'il n'y a personne pour les former.
Je sais.
On est dans l'opérationnel immédiat.
J'ai l'exemple type, ça fait 4 mois qu'on cherche une secrétaire bilingue, français-allemand, mais vraiment allemand, pas des notions scolaires.
Ouais.
Et on ne trouve pas.
Ah ouais, non, mais les gens sont pas formés.
On passe par le chômage, et on met des annonces, on passe par des agences de recrutement. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord
avec
vous.
Donc avant de parler de la préférence, je crois qu'il faudrait parler formation, enfin si je peux me permettre.
Enfin les deux ils vont de pair, mais c'est clair. Ouais. Moi je me rappelle encore M. Charles Baird à l'époque, je parle dans 2009-2010 par là, nous avons sorti des chiffres sur les jeunes informaticiens qui sortaient de SEPTA, qui étaient en inscrits au chômage, et qui nous avait répondu au Parlement que ces gens-là, ils n'étaient pas bien formés. Vous voyez, c'était le ministre de l'Éducation de l'époque. Et nous, on a dit, mais vous attendez quoi alors pour le former comme
mais
il faut?
C'est ça, oui.
C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, une des valeurs que nous avons dans notre économie, c'est l'apprentissage, par exemple. Cette dualité entre le travail et les études, et qui doit être encore renforcée. Et alors, vous parlez un convaincu. Je suis absolument... C'est nécessaire. C'est absolument nécessaire que ces filières de formation soient de plus en plus perfectionnées et adaptées surtout au marché du travail.
Chose et la sécurité, je crois que c'est aussi une de vos préoccupations.
La sécurité, c'est clair, la sécurité. Parce que moi, je suis encore du temps où on pouvait mettre une voiture décapotable à la rue de Rhône pendant toute une nuit avec les radios à tiroir. Vous savez que ça fait 30 secondes pour enlever cette radio et elle était toujours là le petit matin quand on allait en discuter avec des choses comme ça. Malheureusement, les mœurs ont changé. Schengen, avec ses ouvertures de douane. Alors, je suis opposé à Schengen. Je suis opposé à tous ces accords de libre circulation. J'ai aucun état d'âme, même si je viens d'un pays européen, entre guillemets, qui fait partie de la communauté européenne et qui a profité. Mais aujourd'hui, je vois les effets pervers de tout ça. Et je pense que les douaniers doivent revenir aux douanes, tout bêtement. Pour la petite histoire, des amis douaniers me racontent que pendant la nuit, vous avez une voiture dans la rive gauche, une voiture dans la rive droite, pour couvrir 140 km de frontière avec la France. Donc ce n'est pas avec ce genre de choses que les choses vont évoluer. Quand on me dit, vous savez, la gauche qui lançait des initiatives, des référendums anti-riches, entre guillemets, pour le forfait fiscaux, etc., et on me donnait comme argument, en me disant, non, vous inquiétez pas, de toute façon, ils ne partiront pas, parce qu'ils aiment bien la sécurité, ils aiment bien... Donc ça me fait rire. Ça me
Surtout
fait
les forfaits
rire.
Fiscaux, il faut dire une chose, ce sont des gens qui ont déjà quitté leur pays. Quand on a quitté son propre pays, quitter un deuxième pays d'accueil qui ne vous donne pas satisfaction, c'est très simple.
Non, mais vous savez, en 3 ou 4 jours, vous pouvez domicilier fiscalement votre fortune, entre guillemets, n'importe où dans
c'est
le monde.
C'est un clic maintenant, malheureusement.
Voilà, donc je suis... Vous savez, mais ce qui me rassure, c'est que le peuple, il a de bon sens. Il n'a pas cette haine du riche, il n'est pas envieux, on va dire. Il sait qu'un milliard, c'est quand même un milliard qu'il nous laisse par année. C'est ce qu'il disait monsieur Hiller, qui n'était pas de droite. Il disait, je suis prêt à devenir la capitale mondiale des habits, d'accord, mais vous aurez des salaires comme le Bangladesh. Donc, à vous de choisir. Autrement, nous devons garder ces milliards d'économies parallèles que ces gens nous laissent. Et oui, c'est ça le bon sens, à mon avis. C'est ces équilibres-là, oui.
Mon cher Carlos, on arrive hélas au terme de cette émission. On vous écoutera encore très longtemps.
Merci
parce
beaucoup.
Que c'est passionnant. Et puis, vous êtes un homme de conviction.
Ah, des convictions, de combat, un guerrier.
Un
ça,
guerrier.
J'ai aucun problème avec ça.
Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Cité Genève.
Merci à vous. Ça serait un vrai plaisir.
Et puis, revenez souvent.
Ah, ça serait volontiers.
Avec plaisir. Et on remercie aussi Alexandre Jean-Renaud qui nous a enregistré aujourd'hui et qui va monter notre émission. Et à bientôt.
Bientôt, bonne journée.
Au revoir. Au revoir.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.